Europe 1. Le résistant Missak Manouchian entre aujourd'hui au Panthéon. Cet Arménien à la sensibilité communiste s'est installé en France dans les années 1920. Il aimait nos valeurs républicaines. C'est pour ça qu'il voulait vivre en France. Tout en restant un étranger sur le sol français, il s'est engagé dans la résistance contre l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Son réseau a été démantelé et il a été fusillé au Mont Valérien en 1944. Les nazis ont voulu faire de lui un symbole de l'étranger dangereux, du criminel venu de l'extérieur. Mais dès les années 1950, les Français ont su lui rendre hommage. Aujourd'hui, c'est la patrie qui lui montre sa reconnaissance en le panthéonisant. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Missak Manouchian, un Arménien héros de la résistance française. Nous sommes à Paris, le 15 février 1944. L'Opéra Garnier, ce chef-d'œuvre de style Napoléon III, est en face de nous. À droite, à l'angle de la rue du 4 septembre et de l'avenue de l'Opéra, la façade d'un immeuble haussmannien semble balafrée par le panneau horizontal sur lequel on peut lire en lettres gothiques « Commandant Tour ». C'est le siège militaire de l'occupant allemand. Un groupe d'hommes en sort. Ils portent les uniformes gris des SS. Ils escortent des prisonniers qui ont piteuse allure. Même si on les aperçoit de loin, ça ne fait aucun doute. Ils ont été torturés. Le groupe se dirige vers l'hôtel intercontinental de l'autre côté de la place. Les nazis ont installé une cour martiale provisoire dans un des salons de cet hôtel de luxe. Aucun des détenus ne s'émerveille devant les dorures des salons, n'observe la lumière zénitale qui tombe en rayons d'argent depuis les verrières, ou n'admire les statues désirées par l'architecte Charles Garnier comme la continuité de l'opéra tout proche. Ici, c'est une parodie de justice qui va être rendue. 22 personnes, dont 19 étrangers, tous membres d'un réseau de résistance communiste, seront bientôt jugés coupables de terrorisme contre les Allemands. Parmi eux, il y a Missak Manouchian. Il a 37 ans, il est fin et athlétique, très brun, avec une petite moustache. Un métèque, comme on dirait alors. Il écoute, l'air grave, ses juges le condamné. Au journaliste collaborationniste qui couvre l'affaire, il aurait crié « Vous avez hérité de la nationalité française ?» Nous l'avons mérité.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne?
Missak Manouchian est mort pour la France, mais il n'est pas né sur son sol. Il vient d'une famille paysanne arménienne et catholique installée dans l'Empire ottoman, en actuelle Turquie. Quand il voit le jour, le 1er septembre 1906, sa communauté est déjà endeuillée. Il faut que je vous dise un mot du contexte de cette époque. Au XIXe siècle, ce qui reste des grands empires européens se fracture. Les peuples réclament tous les uns après les autres leur souveraineté. Dans l'Empire ottoman, les minorités, surtout quand elles ne sont pas musulmanes, sont persécutées. C'est dans ce contexte que les Arméniens réclament la liberté et l'égalité au sultan dans le milieu des années 1880. La puissance ottomane répond à ces demandes par des massacres. Avant la Première Guerre mondiale, 200 000 Arméniens sont déjà morts. Il en reste en 1914 un peu plus d'1,6 million dans l'Empire ottoman. À partir de 1915, les Turcs organisent le génocide des Arméniens. Face à cette menace, le père de Missak intègre un groupe d'autodéfense. Il meurt les armes à la main et le génocide fait 1,5 million de morts. La mère de Missak meurt quant à elle dans un épisode de famine lié au génocide. Missak et son frère sont envoyés dans un orphelinat en Syrie. En 1924, les deux jeunes hommes partent pour Marseille. Le pays des droits de l'homme fait rêver Missak. Dans la cité phocéenne, il apprend le métier de menuisier, vit de petits boulots, et commence à fréquenter la CGT, la Confédération Générale du Travail, un syndicat ouvrier fondé à la fin du 19e siècle autour des idées marxistes. Missak est un jeune homme intelligent. Il veut une vie stimulante. C'est ce qu'il pousse à gagner Paris en 1927. Entre-temps, son frère est mort. Maintenant, il est seul. et tout est à construire. Dans la capitale, il trouve un travail de tourneur dans les usines Citroën sur le quai de Javel. Quand il ne pointe pas sur la chaîne, il va suivre des cours à la Sorbonne et lit tout ce qu'il peut à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Très vite, son français est parfait. Il s'amuse à traduire les grands poètes en arménien comme Verlaine ou Rimbaud. Il prend lui-même la plume pour écrire des poèmes, généralement dans une forme libre, une prose arrogante, fière et lucide, inspirée de sa vie et de celle des ouvriers qui l'entourent. Voici un extrait du poème intitulé « Le miroir et le moi ». Comme un forçat supplicié, comme un esclave qu'on brime, j'ai grandi nu sous le fouet de la gêne et de l'insulte, me battant contre la mort, vivre étant le seul problème. Quel guetteur têtu je fus des lueurs et des mirages. La rage de vivre, vous pouvez la sentir dans ces quelques mots. Mieux né, Missak Manouchian serait devenu un intellectuel parisien. Il n'a pas eu la chance de Sartre à la loterie de la naissance. Il n'a pas eu non plus la chance de croiser la route d'un professeur qui a changé son destin, à l'instar de Camus. Missak n'a pas vraiment eu le choix. Il est ouvrier, il est prolétaire. Mais ça ne l'empêche pas de fonder avec quelques amis deux revues littéraires en arménien, L'Effort et La Culture. J'ai l'impression qu'il ressemble à ces ouvriers passionnés de littérature, à ces prolétaires idéaux que rêvait de produire le Parti communiste russe. Alors que les idées communistes trouvent un public toujours plus étendu dans le prolétariat, à l'autre bout du spectre politique, le fascisme séduit de plus en plus d'Européens. Dans les deux cas, ces partis aux extrémités de l'échiquier politique attirent tous les mécontents dans un contexte de crise économique et de défiance politique. La crise boursière de 1929 a déclenché une période de récession partout en Europe. Le chômage monte en flèche. En Espagne, au Portugal et en Italie, les fascistes promettent des réponses à tous les problèmes. Et en Allemagne, c'est le nazisme qui s'impose au pouvoir. En février 1933, le Reichstag, le Parlement de Berlin, est incendié. Les nazis prétendent qu'il s'agit d'un acte criminel organisé par les communistes. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais on ignore toujours si c'est le fait d'un loup solitaire ou une manipulation des nazis. Quel que soit le coupable, les nazis se sont servis de ce drame pour gagner en popularité. En France, la situation est plus contrastée, même s'il y a un consensus. Toute la classe politique est incompétente et corrompue. Ni la droite, ni la gauche ne font du bon travail. Sur fond de crise politique et de scandale, Édouard Daladier est nommé président du Conseil en février 1934. C'est un homme plutôt à gauche. L'une de ses premières mesures est de limoger le préfet de police Jean Chiappe, plutôt complaisant avec les ligues d'extrême droite. Pour ces dernières, c'est une attaque à peine voilée. L'Action française, Solidarité française et Jeunesse patriote décident donc de marcher sur le Palais Bourbon le 6 février 1934. C'est une manifestation anti-parlementaire qui se solde par des échauffourées avec la police. Missak Manouchian est affolé par les violences d'extrême droite qu'il observe en France et en Europe. C'est pour lutter contre la montée des fascismes qu'il décide cette fois de s'encarter au Parti communiste français, le PCF, en cette année 1934. Là, l'orphelin arménien tisse des liens avec les intellectuels communistes de son temps et se construit une nouvelle famille de cœur. Et il trouve l'amour aussi. Parmi les camarades, il y a Méliné, une jeune arménienne orpheline comme lui, qui enfant avait trouvé refuge dans un orphelinat grec. La langue, la culture, les plaies, les combats, tout les rapproche. Comme Missak est un peu poète, il trouve une façon originale de révéler ses sentiments. Un jour, dans un bar, le jeune homme explique à Méliné qu'il va lui montrer les lues de son cœur et il lui tend un miroir. À ce moment de sa vie, Missak est engagé pour la cause arménienne. Vers 1936, il préside le comité de secours à l'Arménie. Juste avant la guerre, il visite les différents groupes de la diaspora arménienne basée en France et tente de les rapprocher du Front populaire, c'est-à-dire de l'Union des Gauches qui vient de remporter les élections. À Paris, il devient un intime de la famille Aznavourian chez qui il va souvent dîner. Il joue même aux échecs avec leur fils, Charles. Et puis arrive 1939. Tous les clochers de France sonnent le tocsin. C'est la guerre. Le premier réflexe est de chercher les ennemis de l'intérieur. Missak est d'abord incarcéré pour être un étranger communiste, puis il est libéré et incorporé dans l'armée. Mais la France est écrasée par la Wehrmacht et capitule en 1940. C'est la fin de la Troisième République et le début du régime collaborationniste de Vichy. Démobilisé, Manouchian poursuit ses activités militantes à Paris.
En principe, les communistes ne sont pas censés être une menace pour les Allemands qui prennent possession de la moitié nord de la France. Eh oui, Hitler et Staline ont ratifié en 1939 le pacte de non-agression germano-soviétique. Mais ces deux tyrans sont assoiffés de sang et ne font que temporiser, aucun n'est dupe. Il ne reste qu'à savoir lequel des deux rompra le pacte en premier. Et de fait, Manouchian est arrêté par les Allemands lors d'une rafle préventive en juin 1941. Le lendemain, le 22 juin 1941 donc, les nazis lancent l'opération Barbarossa, l'invasion surprise de l'Union soviétique par les Allemands. Fin du pacte germano-soviétique. Les nazis assument maintenant leur haine pour les communistes. Après quelques semaines de détention, Manouchian est relâché. Les Allemands n'ont rien contre lui. C'est là que l'Arménien décide de rejoindre la résistance par amour pour la France et pour la liberté. Depuis la capitulation, plusieurs mouvements de résistance s'organisent partout en zone libre et en zone occupée, certains sous l'égide de la France libre du général de Gaulle. Mais d'autres réseaux de résistance s'organisent autour des communistes. Ce sont ces réseaux-là que Missak Manouchian intègre naturellement. Il trouve sa place dans les FTP et MOI, les francs-tireurs et partisans, et plus précisément, dans la section de main-d'œuvre ouvrière immigrée. Parmi les MOI, il n'y a que des étrangers qui vivent en France. Tous ne sont pas communistes d'ailleurs. Manouchian est le premier arménien de cette force armée. Il porte le matricule 10300. Le 17 mars 1943, il participe à sa première attaque. Le rendez-vous est donné pour les combattants à Levallois-Perret à 8h du matin. Missak fait partie de l'équipe envoyée rue Rivet. Il jette une grenade sur des militaires allemands. Bilan, un mort et 15 blessés parmi les Boches. Deux victimes collatérales dans les civils français. Et c'est là que les témoignages divergent sur Manouchian. Selon les uns, il agit en tête brûlée, et selon les autres, il est prudent et soucieux de la vie de ses camarades. Bon, les historiens savent que lorsque les témoignages sont aussi contradictoires, la vérité est souvent quelque part entre les deux. Cette année 1943, suite à l'arrestation d'un des chefs du réseau, Manouchian passe commissaire technique de la direction des FTP et MOI. Rapidement, on lui trouve un autre poste encore plus élevé. Il adhère à la stratégie de Joseph Epstein, l'un des colonels de ce réseau, selon laquelle il faut intensifier les combats à Paris. Au même moment, les policiers de la 2e brigade spéciale traquent les résistants parisiens. Ils les ont presque tous eus. Ils sont maintenant sur les talons des FTP et MOI. Depuis le 24 septembre 1943, la police file Manouchian. Le mardi 16 novembre, l'Arménien se rend à la gare d'Évry-Petit-Bourg où il doit rencontrer son chef de réseau, Joseph Epstein. C'est là que les deux résistants des FTP et MOI s'aperçoivent qu'ils sont suivis. Ils sont arrêtés par le commissaire Gaston Barachin et quatre de ses inspecteurs. À la fin de la journée, la 2e brigade spéciale peut se vanter d'avoir arrêté 68 personnes liées à ce réseau d'étrangers communistes. Missak Manouchian est convaincu d'avoir été trahi. Mais selon les historiens, la police de Vichy a très bien fait son travail. Il n'y a pas eu de balance. Le 15 février 1944, Missak Manouchian est jugé par une parodie de cour martiale. Il est condamné à mort avec 22 autres résistants, dont 19 étrangers. La presse collaborationniste se délecte de l'affaire. Dans le journal Le Matin, on peut lire que, je cite, « Un Arménien, Missak Manouchian, dirigeait cette tourbe internationale qui assassinait et détruisait pour 2300 francs par mois. » Les services de propagande allemands, quant à eux, font imprimer une affiche à 15 000 exemplaires. Elle est rouge et noire. Son titre, c'est « La libération par l'armée du crime ». Les photos des prétendus libérateurs figurent dans des médaillons. Au centre, il y a Manouchian avec son palmarès. 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. La Gestapo veut montrer aux Français combien les étrangers sont dangereux. Mais pour les résistants, cette affiche est digne du tableau d'honneur. Les condamnés sont emmenés au Mont Valérien, près de Paris, le 21 février 1944. C'est là qu'ils sont fusillés, sur la grande plaine où l'écho des balles est absorbé par le néant. Dans la dernière lettre qu'il écrit à Mélinée avant de mourir, Missak Manouchian confesse croire en la libération prochaine de la France. Il proclame ne pas haïr les Allemands et témoigne de son amour pour sa femme. Il a l'intime conviction qu'un jour, la France saura le remercier pour son sacrifice. Mélinée, devenue veuve, fera tout son possible pour entretenir la mémoire de Missak Manouchian après la guerre.
Mélinée, vous vivez depuis dans la douceur des choses. Dites-moi, Quel homme était Manouchian ?
Manouchian, c'était un homme très, très calme. C'était un homme réfléchi. C'était un homme qui aimait beaucoup, beaucoup la vie. Il a donné son sang rouge pour la France.
En 1955, Louis Aragon écrit « Strophe pour se souvenir » qui rend hommage à ces étrangers morts pour la France. 4 ans plus tard, Léo Ferré reprend ce poème et les mots de la dernière lettre de Missak Manouchian dans une chanson intitulée « L'affiche rouge ».
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Aujourd'hui, notre nation reconnaît que Manouchian l'étranger a versé son sang pour notre patrie. Aujourd'hui, la France reconnaissante lui ouvre les portes de son panthéon républicain. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'appli Europe 1, sur votre plateforme de podcast favorite, et chaque week-end à l'antenne d'Europe 1. À très vite.